Chapitre 21 Le garçon de moulin. Ma chère dame, dit en toute hâte le meunier qui entendait Rose venir derrière Marcel, j'ai 200 choses à vous dire, mais je peux pas débiter tout cela en 2 minutes. Ici d'ailleurs, je parle pas de mademoiselle Rose, les murs ont des oreilles très longues, et si je vais me promener seul avec vous, ça donnera des soupçons sur certaines affaires. Enfin, il faut que je vous parle. Comment ferons-nous ? Il y a un moyen bien simple, répondit madame de Blanchemont. J'irai me promener aujourd'hui et je trouverai bien le chemin dans Gibault. D'ailleurs, si mademoiselle Rose voulait vous le montrer, dit grand Louis au moment où Rose entrait et entendait les dernières paroles de Marcel. Si tant est, ajouta-t-il, qu'elle soit pas trop en colère contre moi. Oh, grand étourdi, vous allez me faire gronder par ma mère d'une belle façon, répondit Rose. Elle m'a encore rien dit, mais avec elle, ce qui est différé n'est pas perdu. Non, non, mademoiselle Rose, vous ne craignez rien. Votre maman, cette fois, ne dira mot. Dieu merci. Me suis justifié, votre papa m'a pardonné. Il s'est chargé d'apaiser madame Bricolin, et pourvu que vous ne me gardiez pas rancune de ma sottise. Ne parlons plus de cela, dit Rose en rougissant. Je ne vous en veux pas, grand Louis. Seulement vous auriez pu me crier votre justification un peu moins haut en sortant. Vous m'avez réveillé en peur. Vous dormiez donc, hein, je croyais pas. Alors, vous ne dormiez pas, petite rusée, dit Marcel, puisque vous avez fermé vos rideaux avec fureur. Je dormais à moitié, dit Rose en tâchant de cacher son embarras sous un air de dépit. Ce qu'il y a de plus clair là-dedans, dit le meunier avec une douleur ingénue, c'est qu'elle m'en veut. Non, Louis, je te pardonne, puisque tu ne me savais pas là, dit Rose, qui avait eu trop longtemps l'habitude de tutoyer le grand Louis, son ami d'enfance, pour ne pas y retomber soit par distraction, soit à dessein. Elle savait bien qu'un seul mot de sa bouche, accompagné de ce délicieux « tu », changeait en joie expansive toutes les tristesses de son amoureux. Et pourtant, dit le meunier, dont les yeux brillèrent de plaisir, « vous voulez pas venir vous promener au moulin aujourd'hui avec madame Marcel ?»« Comment donc faire, grand Louis, puisque maman me l'a défendu ?» Je sais pas pourquoi. Votre papa vous le permettra. Je me suis plaint à lui des duretés de madame Bricolin. Il les désapprouve et m'a promis d'ôter à sa dame les préventions qu'elle a contre moi. Je sais pas pourquoi non plus. Ah, tant mieux s'il en est ainsi, s'écria Rose avec abandon. Nous irons à cheval, n'est-ce pas, madame Marcel ? Vous montrez ma petite jument et moi je prendrai le bidet à papa. Il est très doux et va très vite. Et moi, dit Édouard, je veux monter à cheval aussi. Cela est plus difficile, répondit Marcel. Je n'oserai pas te prendre en croupe, mon ami. Ni moi non plus, dit Rose. Nos chevaux sont un peu trop vifs. Non, je veux aller en gibot, moi, s'écria l'enfant. Maman, emmène-moi au moulin. C'est trop loin pour vos petites jambes, dit le meunier, mais moi, me charge de vous si votre maman y consent. Nous partirons les premiers dans ma charrette et nous irons voir traire les vaches pour que ces dames trouvent de la crème en arrivant. Oh, vous pouvez bien le lui confier, dit Rose à Marcel. Il est si bon pour les enfants. J'en sais quelque chose, moi. « Oh, vous, vous étiez si gentil, dit le meunier tout attendri. Vous auriez dû rester toujours comme cela. »« Merci du compliment, grand Louis. »« Oh, je veux pas dire que vous soyez plus gentil, mais que vous auriez dû rester petite. »« Vous m'aviez tort dans ce temps-là, vous pouviez pas me quitter, toujours pendu à mon cou. » Il serait plaisant dit Rose, moitié troublée, moitié railleuse, que j'eusse conservé cette habitude. Allons, reprit le meunier en s'adressant à Marcel, j'amène le petit, c'est convenu ? Oh, je vous le confie en toute sécurité, dit madame de Blanchemont, en lui mettant son fils dans les bras. Oh, quel bonheur ! S'écria l'enfant. Allochon, tu me mettras encore au bout de tes bras pour me faire attraper des prunes noires aux arbres tout le long du chemin. Oui, monseigneur, dit le meunier en riant, à condition que vous n'en ferez plus tomber sur le nez. Grand Louis, cheminant et jouant sur sa charrette avec le bel Édouard, qui faisait battre son cœur en lui rappelant les grâces, les caresses et les malices de Rose enfant, approchait de son moulin, lorsqu'il aperçut dans la prairie Henri les Morts, qui venait à sa rencontre, mais qui retourna aussitôt sur ses pas et rentra précipitamment dans la maison pour se cacher en reconnaissant Édouard à côté du meunier. Mène Sophie au pré, dit Grand Louis à son garçon de moulin en s'arrêtant à quelque distance de la porte. Et vous, ma mère, amusez-vous-moi à cet enfant-là. Ayez-en soin comme de la prunelle de vos yeux. Moi, j'ai un mot à dire au moulin. Il courut alors retrouver les Morts, qui s'étaient enfermés dans sa chambre, et qui lui dit, en ouvrant avec précaution, « Oh, cet enfant me connaît, j'ai dû éviter ses regards. »« Ben, qui diable pouvait se douter que vous seriez encore là ?» dit le meunier, qui avait peine à revenir de sa surprise. « Moi qui vous avais fait mes adieux ce matin, et qui vous croyais déjà mettant à la voile pour l'Afrique. » « Quel chevalier héros, quelle âme en peine êtes-vous donc ?»« Je suis une âme en peine, en effet, mon ami. Ayez compassion de moi. J'ai fait une lieue. Je me suis assis au bord d'une fontaine. J'ai rêvé, j'ai pleuré, je suis revenu. Je ne peux pas m'en aller. »« Eh bien, c'est comme cela que je vous aime !» s'écria le meunier en lui secouant la main avec force. « Voilà comment j'ai été plus de 100 fois. Oui, plus de 100 fois, j'ai quitté Blanchemont en jurant n'y jamais remettre les pieds. Et il y avait toujours au bord du chemin quelques fontaines où je m'asseyais pour pleurer et qui avaient la vertu de me faire retourner d'où je venais. Mais écoutez, mon garçon, faut être sur vos gardes. Je veux bien que vous restiez chez nous, tant que vous ne pourrez pas vous décider à vous en aller. Ce sera long, je le prévois. Tant mieux, je vous aime, je voulais vous retenir ce matin. Vous revenez, j'en suis heureux, et je vous en remercie. Mais pour quelques heures, il faut vous éloigner. Elles vont venir ici. » Toutes les deux ? S'écria les Morts qui comprenaient Grand Louis à demi-mot. « Oui, toutes les deux. J'ai pas pu dire un mot de vous à madame Beaumanchemont. Elle vient pour que je lui parle de ses affaires d'argent, sans savoir que j'ai à lui parler de ses affaires de cœur. Je veux pas qu'elle vous sache ici, avant d'être bien sûr qu'elle ne me grondera pas de vous y avoir amené. D'ailleurs, je ne veux pas la surprendre, surtout devant Rose, qui ne sait en rien du tout de cela. Cachez-vous donc... Elles ont mandé leurs chevaux comme je partais. Oh, elles auront déjeuné comme déjeunent les belles dames, c'est-à-dire comme des fauvettes. Leurs montures n'ont pas les épaules froides ou peuvent être ici d'un moment à l'autre. Bon, je pars, je m'enfuis, dit les Morts tout pâle et tout tremblant. Oh, mon ami, elle va venir ici. « Ben, j'entends bien, ça vous saigne le cœur de ne pas l'avoir, oui, c'est dur, j'en conviens. Si on pouvait compter sur vous, si vous pouviez jurer de ne pas vous montrer, de ne bouger ni pied ni patte tout le temps qu'elles seront par ici, je vous fourrais bien dans un endroit où vous la verriez, sans être aperçu. Oh, mon cher grand Louis, mon excellent ami, je promets, je jure, cachez-moi. fût sous la meule de votre moulin. Diable, oh, il ferait pas bon. La grande Louise a les os plus durs que vous. Je vais vous serrer plus mollement. Vous monterez dans mon grenier à foin, et par le trou de la lucarne, vous pourrez voir passer et repasser ces dames. Je serais pas fâché que vous voyez Rose Bricolin. Vous me direz, si vous avez connu à Paris beaucoup de duchesses plus jolies que ça. Mais attendez que j'aille voir ce qui se passe. Et le grand Louis gravit un peu la côte de Condé, d'où l'on découvrait les tours de Blanchemont, et à peu près tout le chemin qui y mène. Quand il se vit assuré que les deux Amazones ne paraissaient pas encore, il retourna auprès de son prisonnier. « Ça, mon camarade, lui dit-il, voilà un miroir de deux sous et un vrai rasoir de meunier. Vous allez me jeter bas cette barbe de bouc. C'est déplacé dans un moulin. C'est un nid à farine. Et puis si par malheur on apercevait le bout de votre museau, ce changement vous rendrait moins facile à reconnaître. Vous avez raison, dit-il, il est mort et je vous obéis bien vite. Savez-vous, reprit le meunier, que j'ai mon idée en vous faisant mettre bas cette toison noire.
Laquelle ?
Je viens d'y penser, j'ai arrêté ce qui suit. Vous allez rester chez moi jusqu'à ce que vous soyez décidé à ne plus faire de peine à ma chère dame et à changer vos folles idées sur la fortune. Quand même vous n'y resteriez que peu de jours, il ne faut pas qu'on sache qui vous êtes, et votre barbe vous donne un air citadin qui attire les yeux. J'ai dit en l'air hier soir à ma bonne femme de mer que vous étiez un arpenteur. C'est le premier mensonge qui m'est venu, et il est absurde. J'aurais mieux fait dire tout de suite votre état. Au reste, ma mère, qui s'étonne de rien, trouvera tout simple que du cadastre vous ayez passé dans la mécanique. Vous allez donc être meunier, mon cher, ça vous va mieux. Vous vous occuperez, ou vous aurez l'air de vous occuper au moulin. Vous avez certainement des connaissances dans la partie, et vous serez censé me conseiller pour l'établissement d'une nouvelle meule. Vous serez une rencontre utile que j'aurai faite à la ville. Comme cela, votre présence chez moi n'étonnera personne. Je suis adjoint, je réponds de vous. Personne ne demandera à voir votre passeport. Le garde champêtre est un peu curieux et bavard, mais avec une ou deux pannes de vin, on endort sa langue. Voilà mon plan, faut vous y conformer, ou je vous abandonne. Je me soumets, je serai votre garçon de moulin. Je me cacherai pourvu que je ne parte pas sans revoir ne fût-ce que d'ici et pour un instant. Chut ! J'entends des fers sur les cailloux. Tric, tric, oh, c'est la jument noire à Mademoiselle Rose. Tracto, ça c'est le bidet gris à Monsieur Bricolin. Allez, vous voilà assez rasé, assez lavé, et je vous assure que vous êtes 100 fois mieux comme ça. Allez, courez au foin et poussez sur vous le volet de la lucarne. Vous regarderez par la fente. Si mon garçon y monte, faites semblant de dormir. Une sieste dans le foin est une douceur que les gens du pays se donnent souvent et une occupation qui leur paraît plus chrétienne que celle de réfléchir tout seul les bras croisés et les yeux ouverts. Adieu. Voilà Mademoiselle Rose. Tenez la première en avant. Voyez comme ça trottine légèrement et d'un air décidé. Belle comme un ange, dit Lénore, qui n'avait regardé que Marcel. Chapitre 22. Au bord de l'eau. Grand Louis, qui avait toutes les délicatesses d'un cœur candidement épris, avait donné en passant des ordres pour que le lait et les fruits de la collation fussent servis sous une treille qui ornait le devant de sa porte, juste en face et à très peu de distance du moulin, d'où les morts blottis dans son grenier pouvaient voir et même entendre Marcel. La collation rustique fut fort enjouée, grâce à l'espiègle intimité d'Édouard avec le meunier et aux charmantes coquetteries de Rose envers celui-ci. « Prenez garde, Rose, » dit madame de Blanchemont à l'oreille de la jeune fille. « Vous vous faites adorable aujourd'hui et vous voyez bien que vous lui tournez la tête. Il me semble que vous vous moquez beaucoup de mes sermons ou que vous vous engagez trop. » Rose se troubla, resta un moment rêveuse et recommença bientôt ses vives agaceries comme si elle eût pris intérieurement son parti d'accepter l'amour qu'elle provoquait. Il y avait toujours eu au fond de son cœur une vive amitié pour le grand Louis. Il n'était donc guère probable qu'elle se fît un jeu de railler si elle n'eût senti la possibilité de faire en elle-même un grand progrès à cette amitié fraternelle. Le meunier, sans vouloir se flatter, éprouvait cependant une confiance instinctive, et son âme loyale lui disait que Rose était trop bonne et trop pure pour le torturer froidement. Il se trouvait donc heureux de la voir si enjouée et si animée près de lui, et il eut grand-peine à la laisser avec sa mère la dernière à table. Mais il avait vu Marcel s'éloigner un peu et lui faire signe à la dérobée qu'il eût à la suivre de l'autre côté de la rivière. Eh bien, mon cher grand Louis, lui dit madame de Blanchemont, il me semble que vous n'êtes plus si triste que l'autre jour, et que j'en ai deviné la cause. Ah, madame Marcel, vous savez tout, je le vois bien, et je n'ai rien à vous apprendre. C'est vous qui pourriez m'en dire plus long que je n'en sais. Car il me semble qu'on doit avoir et qu'on a grande confiance en vous. Je ne veux pas compromettre Rose, dit Marcel en souriant. Les femmes ne doivent pas se trahir entre elles. Cependant, je crois pouvoir espérer avec vous qu'il ne vous sera pas impossible de vous faire aimer. Ah, si on m'aimait, je serais content. Je crois que je n'en reviendrai pas davantage. Car le jour où elle me dirait, je serai capable d'en mourir de joie. Mon ami, vous aimez sincèrement et noblement, et c'est pour cela qu'il ne faudrait pas trop désirer d'être payé de retour avant de songer à détruire les obstacles qui viennent de la famille. Je présume que c'est là ce que vous avez à m'entretenir, et c'est pourquoi je me suis rendu avec empressement à votre invitation. Voyons, le temps est précieux, car on va sans doute venir nous rejoindre. En quoi puis-je influencer les idées du père ainsi que Rose me l'a fait entendre ? Rose vous a fait entendre cela ? S'écria le meunier transporté. Elle y songe donc ? Elle m'aime donc ? Ah, madame Marcel ! Et vous ne me disiez pas cela tout de suite ? Oh, que m'importe le reste si elle m'aime, si elle désire m'épouser. Non, doucement, mon ami. Rose ne s'est pas engagée si avant. Elle a pour vous l'affection d'une sœur. Elle désirait voir révoquer la sentence qui lui interdisait de vous parler, de venir chez vous, de vous traiter enfin en ami comme elle avait fait jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi elle m'a prié de vous protéger auprès de ses parents, et de prendre votre parti, tout en montrant quelque fermeté dans mes affaires avec eux. Et voici ce que j'ai compris en outre, grand Louis. Monsieur Bricolin veut ma terre à bon marché, et peut-être que si Rose vous aimait, je pourrais assurer son bonheur et le vôtre en imposant votre mariage comme une condition de mon consentement. Si vous le croyez, ne doutez pas que je sois très heureuse de faire ce léger sacrifice. Ce léger sacrifice, mais vous n'y songez pas, madame Marcel. Vous vous croyez encore riche. Vous parlez de 50 000 francs comme d'un rien. Vous oubliez que c'est désormais une bonne part de votre existence. Et vous croyez que j'accepterai ce sacrifice-là? Oh, j'aimerais mieux renoncer à Rose tout de suite. C'est que vous ne comprenez pas la véritable valeur de l'argent, mon ami. Ce n'est qu'un moyen de bonheur, et le bonheur qu'on peut procurer aux autres est le plus certain et le plus pur qu'on puisse se procurer à soi-même. Oh, vous êtes bonne comme Dieu, pauvre dame. Mais il y en a un bonheur plus certain et plus pur encore pour vous-même. C'est celui que vous devez ménager à votre fils. Et que diriez-vous un jour, grand Dieu, si, faute des 50 000 francs que vous auriez sacrifiés pour vos amis, votre cher Édouard était forcé à son tour de renoncer à une femme qu'il aimerait et que vous en pourriez plus faire obtenir? Mon cœur est pénétré de votre bon raisonnement, mais en fait d'intérêt matériel, il n'y a point pour l'avenir de calculs absolus. Ma position n'est pas rigidement dessinée comme vous la faites. En m'abstenant de vendre cher, je perdrai du temps et vous le savez, chaque jour d'hésitation m'entraîne à ma ruine. En terminant vite, je me libère des dettes qui me rongent. Et certes, oh, il peut y avoir un jour tout profit pour moi à avoir su prendre mon parti sans regret puéril et sans parcimonie déplacée. Vous voyez donc que je ne suis pas si généreuse et que j'agis dans mes intérêts en servant ceux de votre amour. Ben voilà une pauvre tête en affaires, s'écria le meunier avec un sourire triste et tendre. Une scène du paradis ne dirait pas mieux. Mais ça n'a pas le sens commun, permettez-moi de vous le dire, ma chère dame. Vous trouverez d'ici à 15 jours des acquéreurs pour votre terre et qui seront bien contents de ne la payer que son prix. Oui, mais qui ne seront pas solvables comme Monsieur Bricolin. Ah oui, voilà son orgueil, c'est d'être solvable. Solvable, grand mot. Il croit être le seul au monde qui puisse dire « je suis solvable, moi ». C'est-à-dire, il sait bien qu'il y en a d'autres, mais il vous éblouit avec cela. Ne l'écoutez pas. C'est un infamatoire. Faites seulement mine de conclure avec un autre. Fallut-il faire des démarches et des contrats simulés? Bon, je ne gênerai pas à votre place. À la guerre comme à la guerre. Avec les Juifs comme avec les Juifs. Voulez-vous me laisser agir? Dans 15 jours, je vous jure, comme voilà de l'eau que M. Bricolin vous donnera vos 300 000 francs, bien comptés, et un beau pot de vin par-dessus le marché. Bon, je n'aurai jamais l'habileté de suivre vos conseils, et je trouve beaucoup plus vite fait de rendre chacun de nous heureux à sa manière. Vous, Rose, moi, Monsieur Bricolin et mon fils, qui me dira un jour que j'ai bien fait. Roman, roman, dit le meunier. Vous ne savez pas ce que pensera votre fils dans 15 ans d'ici, sur l'argent et sur l'amour. N'allez pas faire cette folie. Je ne m'y prêterai pas, Madame Marcel. Non, 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 n'y comptez pas. Je suis aussi fier que qui que ce soit, et têtu comme un mouton. Du Berry, qui plus est. D'ailleurs, écoutez, ce serait en pure perte. Monsieur Bricolin promettrait tout et ne tiendrait rien. Il faut, vu votre position, que votre contrat de vente soit signé avant la fin du mois, et certes, ce n'est pas d'ici à un mois que je pourrais espérer l'épouser Rose. Il faudrait pour cela qu'elle fût folle de moi, et cela n'est pas. Il faudrait l'exposer à un bruit, à des scandales. Mais je ne m'y résoudrai jamais. Quelle rage aurait sa mère! Quels étonnements et quels dénigrements de la part de ses voisins et de ses connaissances! Que ne dirait-on pas? Qui est-ce qui comprendrait que vous avez imposé cela à M. Bricolin par pure grandeur d'âme et par sainte amitié pour nous? Vous ne connaissez pas la malice des hommes. Et celle des femmes, si vous saviez ce que c'est. Votre bonté pour moi, non, non, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je n'oserais jamais vous dire comment Monsieur Bucolin, tout le premier, serait capable de l'interpréter. Ou bien encore, on dirait que Rose, pauvre sainte fille, a fait un faux pas, qu'elle vous l'a confié, et que vous êtes dévoué pour sauver son honneur à doter le coupable. Enfin, cela ne se peut pas, et voilà plus de raisons qu'il n'en faut, j'espère, pour vous en convaincre. Bon, non, c'est pas comme cela que je veux obtenir Rose. Il faut que cela arrive naturellement et sans faire crier personne contre elle. Je sais bien qu'il faut un miracle pour que je devienne riche, ou un malheur pour qu'elle devienne pauvre. Dieu me viendra en aide si elle m'aime. Et elle m'aimera peut-être, n'est-ce pas? Mais mon ami, je ne puis travailler à enflammer son cœur pour vous si vous m'ôtez les moyens de dominer la cupidité de son père. Je ne l'aurais pas entrepris si j'avais eu cette pensée. Car précipiter cette jeune et charmante fille dans une passion malheureuse serait un crime de ma part. Ah oui, c'est la vérité, dit le grand Louis, soudainement accablé. Mais je vois bien que je suis un fou. Moi aussi, n'était-ce ni de moi ni de Rose que je voulais vous parler en vous priant de venir ici, Madame Marcel. Vous vous êtes trompée là-dessus dans votre excellente bonté. Non, je voulais vous parler de vous seule, quand vous m'avez prévenue en me parlant de moi-même. Je me suis laissé aller comme un grand enfant à vous écouter. Et puis force m'a été de vous répondre. Mais je reviens à mon but, qui est de vous forcer à vous occuper de vos affaires. Je sais celle de Monsieur Bricolin, je sais ses intentions et son ardeur d'acheter vos terres. Il n'en demandera pas. Et pour en avoir 300 000 francs, il faut lui demander 350 000. Vous les auriez si vous vous obstiniez. Mais de toute façon, il ne faut pas qu'il paye le bien au-dessus de sa valeur. Il en a trop l'envie, ne craignez rien. Mais je vous répète, mon ami, que je ne saurais pas soutenir cette lutte, et que depuis 2 jours qu'elle dure, elle est déjà au-dessus de mes forces. Aussi faut-il pas vous en mêler. Vous allez remettre vos affaires à un notaire honnête et habile. J'en connais un. J'irai lui parler ce soir et vous le verrez demain sans vous déranger. C'est demain la fête patronale de Blanchemont. Il y a une grande assemblée sur le terrier devant l'église. Le notaire viendra s'y promener et causer, suivant l'habitude, avec ses clients de la campagne. Vous entrerez comme par hasard dans une maison où il vous attendra. Vous signerez une procuration. Vous lui direz 2 mots, je lui en dirai 4, et vous n'aurez plus qu'à renvoyer Monsieur Bricolin batailler avec lui. S'il ne se rend pas pendant ce temps-là, votre notaire vous aura trouvé un autre acquéreur. Il n'y aura qu'un peu de prudence à garder pour que le Bricolin ne se doute pas que je voulais indiquer cet homme d'affaires au lieu du sien, et qu'il vous a sans doute proposé, et que vous avez peut-être fait la folie d'accepter. Non, non, je vous avais promis de ne rien faire sans vos conseils. C'est bien heureux. Alors allez donc demain, à 2 heures sonnant, vous promener au bord de la Vauvre, comme pour voir du bas du terrier le joli coup d'œil de la fête. Je serai là et je vous ferai entrer chez une personne sûre et discrète. Mais mon ami, si Monsieur Bricolin découvre que vous me dirigez dans cette affaire contre ses intérêts, il vous chassera de sa maison et vous ne pourrez jamais revoir Rose. Oh, il sera bien fin s'il le découvre. Mais si ce malheur arrivait, je vous l'ai dit, Madame Marcel, Dieu me viendrait en aide par un miracle, d'autant plus que j'aurais fait bon devoir. Non, ami loyal et courageux, je ne peux pas me résoudre à vous exposer ainsi. Et je ne vous dois pas cela quand vous vouliez vous ruiner pour moi. Allons, pas l'enfantillage, ma chère dame, nous sommes quittes. Voici Rose qui vient vers nous, dit Marcel. Il me reste à peine le temps de vous remercier. Non, 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 mademoiselle Rose tourne du côté de l'avenue avec ma mère qui a le mot pour la retenir un peu. Car j'ai pas fini, madame Marcel. J'ai bien autre chose à vous dire. Mais vous devez être lasse de marcher si longtemps. Puisque la cour est libre et le moulin silencieux, venez vous asseoir sur ce banc auprès de la porte. Mademoiselle Rose vous croit de l'autre côté et ne reviendra pas ici qu'après avoir fait le tour du pré. Ce que j'ai à vous dire est un peu plus intéressant pour vous que vos affaires et demande plus de secret encore. Marcel, étonné de ce préambule, suivit le meunier et s'assit avec lui sur le banc, juste au-dessous de la lucarne du grenier à foin, d'où les morts pouvaient la voir et l'entendre. « Dites donc, madame Marcel, balbutia le meunier, un peu embarrassé pour entrer en matière, vous savez bien cette lettre que vous m'aviez confiée. Eh bien, mon cher grand Louis, répondit madame de Blanchemont, dont le visage calme et un peu éteint s'enflamma tout à coup, ne m'avez-vous pas dit ce matin que vous l'aviez fait partir? Non, pardon, excuse, c'est que je ne l'ai pas mise à la poste. Vous l'avez oublié? Oh non, certes. Perdu, peut-être? Encore moins. J'ai fait mieux que de la jeter dans la boîte. Je l'ai remise à son adresse. Mais que voulez-vous dire? Elle était adressée à Paris. Oui, mais la personne à qui elle était destinée s'étant trouvée sur mon chemin, j'ai cru mieux faire de la lui remettre. Mon Dieu, vous me faites trembler, Louis, dit Marcel redevenu pâle. Vous aurez fait quelque méprise? Pas si sot. Je connais bien M. Henri, il est mort, peut-être. Vous le connaissez? Il est dans ce pays-ci? Dit Marcel avec une émotion qu'il ne cherchait pas à dissimuler. En quatre mots, grand Louis expliqua la manière dont il avait reconnu les morts pour le voyageur qui était déjà venu à son moulin et pour le destinataire de la lettre à lui confier. « Et où donc allait-il? Que fait-il là ?» demanda Marcel oppressé. « Il allait en Afrique, il passait, » répondit le meunier qui voulait voir venir. « C'est bien le chemin par Toulouse. Il avait pris l'heure du déjeuner de la diligence pour aller à la poste. Et où est-il maintenant ?» « Bon, je vous dirai pas bien où il peut être, mais il n'est plus à... »« Il va en Afrique, dites-vous, et pourquoi si loin ?»« Bon, pour aller bien loin, précisément, voilà ce qu'il a répondu à ma question. »« La réponse est plus claire que vous ne pensez, » dit Marcel, dont l'agitation augmentait et qui ne songeait pas même à la rendre moins évidente. « Mon ami, vous n'êtes pas si malheureux que vous croyez. Il a des cœurs plus brisés que le vôtre. Le vôtre, par exemple, ma pauvre chère dame. Oui, mon ami, le mien. Mais n'est-ce pas un peu de votre faute? Pourquoi ordonniez-vous à ce pauvre jeune homme de rester un an sans entendre parler de vous? Comment, il vous a donc fait lire ma lettre? Oh non! Il est assez méfiant et cachotier, allez. Mais je l'ai tant questionné, tant obsédé, tant deviné, qu'il a été forcé de m'avouer que je me trompais guère. Ah, madame, voyez-vous, madame Marcel, je suis très curieux des secrets de ce que j'aime, moi, parce que tant qu'on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas comment les servir, ai-je tort? Non, mon ami, non, je suis bien aise que vous ayez mes secrets comme j'ai les vôtres. Mais hélas, quelle que soit ici votre bonne volonté et votre bon cœur, Vous ne pouvez rien pour moi. Répondez-moi pourtant, ce jeune homme ne vous a-t-il transmis aucune réponse, ni par écrit, ni verbalement ? Oh, il vous a écrit ce matin un tas de billevesées dont j'ai pas voulu vous charger. Vous m'avez rendu un mauvais service, ainsi je ne puis savoir ses intentions. Oh, il a su me dire que ceci, je l'aime, mais j'ai du courage. Il a dit mais ? Oh, il a peut-être dit. Ce serait si différent. Rappelez-vous, grand Louis. Ben, il a dit tantôt l'un, tantôt l'autre, car il l'a répété souvent. Ce matin, dites-vous, mais vous n'avez donc quitté la ville que ce matin ? Ben, je vais vous le dire hier soir. Il était tard et nous sortons le matin dès minuit. Mon Dieu, qu'est-ce à dire ? Pourquoi pas de lettres ? Vous avez donc vu celle qu'il m'écrivait ? Un peu, il en a déchiré 4. Mais que disaient ces lettres ? Il était donc bien irrésolu. Tantôt, il vous disait qu'il ne pouvait jamais vous revoir, et tantôt qu'il allait venir vous voir tout de suite. Et il a résisté à cette dernière tentation. Oh, il a bien du courage, en effet. Oh, écoutez-moi donc, il a été tenté plus que Saint-Antoine, mais d'une part, je l'en détournais, d'autre, il craignait de vous désobéir. Et que pensez-vous d'un amant qui ne sait pas désobéir ? Je pense qu'il aime trop et qu'on ne lui en saura aucun gré. Je suis injuste, n'est-ce pas, mon cher grand Louis ? Oh, je suis trop ému, c'est ce que je dis. Mais pourquoi vous, ami, l'avez-vous détourné de vous suivre ? Car il en a eu la pensée. Oh, je crois bien, il a même fait un bout de chemin sur ma charrette. Mais moi, excusez, j'avais trop peur de vous mécontenter. Vous aimez, et vous croyez les autres si sévères ? Dame, qu'auriez-vous dit ? Si je l'avais amené dans la vallée noire, par exemple dans ce moment-ci, si je vous disais que je l'ai engagé à se cacher dans mon moulin, ah, pour le coup, vous me traiteriez comme je le mériterais. Louis, dit Marcel en se levant d'un air de résolution exaltée, il est ici, vous en convenez. Ah non, pas madame, c'est vous qui me faites dire cela. « Mon ami, reprit-elle en lui prenant la main avec effusion, dites-moi où il est, je vous pardonne. »« Si cela était, dit le meunier un peu effrayé de la spontanéité de Marcel, mais enthousiasmé de sa franchise, vous craindriez donc pas de le faire jaser sur votre compte ?» Quand il me quittait volontairement et que j'avais l'esprit abattu, je pouvais songer au monde, prévoir des dangers, me créer des devoirs rigides, exagérer peut-être. Mais quand il revient vers moi, quand il est si près d'ici, à quoi voulez-vous que je songe et que voulez-vous que je craigne ? Mais il faut pourtant craindre que quelque imprudence ne rende vos projets plus malaisés à exécuter. Dit grand Louis, en faisant un geste pour indiquer à Marcel la fenêtre au-dessus de sa tête. Marcel leva les yeux et rencontra ceux de les morts qui, palpitant et penchés vers elle, étaient prêts à sauter du haut du toit pour abréger la distance. Mais le meunier toussa de toute sa force et d'un autre geste, indiquant aux deux amants roses qui s'approchaient avec la meunière et le petit Édouard. « Oui, madame, dit-il en élevant la voix, un moulin comme ça rapporte peu, mais si je pouvais tant seulement y établir une grande meule que j'ai dans la tête, oh, il me rapporterait bien. 800 bons francs par an.